Nous avons le plaisir de sauter allègrement quelques siècles et d'arriver à Léon Blois et ses opinions sur Christophe Colomb que va nous expliquer, nous commenter Madame Millet-Gérard, professeure à Paris 4. Chère Madame, vous avez la parole.
Mesdames, Messieurs, je vais me faire devant vous l'avocat de Léon Blois, ce qui est toujours un petit peu périlleux, surtout après un discours historique. Nous allons passer à un discours beaucoup plus fantaisiste, si je puis dire. J'ai intitulé cette petite communication « Le spectacle d'une âme », c'est une expression de Léon Blois lui-même, « Configuration mystique de Christophe Colomb chez Léon Blois ». Donc nous allons nous reporter un siècle en arrière et... Nous allons étudier la réaction face à Christophe Colomb de celui que l'éditeur de son principal livre sur Christophe Colomb qualifiait de, je cite, « le dernier moyen-âgiste égaré dans notre époque de chemin de fer ». Donc, pour présenter le sujet, je commencerai par citer des propos de Blois qui datent d'une dizaine d'années avant 1892 et qui marquent le début de sa réflexion sur la question. Je cite donc « Le 12 octobre 1892 arrivera le quatrième séculaire de la découverte. Il est aisé de prévoir qu'avec la fureur d'adoration qui possède ordinairement les peuples sans Dieu, ce centenaire sera célébré d'une manière inouïe par les marines du globe entier. 10 ans à peine nous séparent de cette époque, que fera le catholicisme en ce jour solennel ? Question qui garde aujourd'hui une certaine actualité et à laquelle je me garderai bien de répondre, en tout cas en ce qui concerne l'actualité présente, mais nous allons voir comment Léon Blois y réagit. Son intérêt pour Christophe Colomb provient d'une lecture passionnée de l'ouvrage du comte Rosélie de Lorgues, l'ouvrage célèbre à l'époque, intitulé « Christophe Colomb, histoire de sa vie et de ses voyages, d'après les documents authentiques tirés d'Espagne et d'Italie », qui a été publié chez Didier en 1856. Vraisemblablement, Blois a lu cet ouvrage en 1974, c'est Barbet d'Aurevilly qui avait dû le présenter au comte Rosélie de Lorgues. Blois a alors 28 ans, Blois est né en 1846, et sa réaction est une réaction d'enthousiasme non partagé. Je cite « L'histoire de Christophe Colomb par le comte Rosélie de Lorgues est un livre terriblement haut pour les avortons du scepticisme. Le comte Rosélie de Lorgues mérite l'admiration pour avoir vu seul et pour avoir osé notifier au monde le rôle providentiel de l'homme inouï dont il s'est fait l'historien, avec un H majuscule à homme. J'ai souvent pensé à cette œuvre, étrange à force de candeur, dont la première lecture, ancienne déjà, fut un des événements les plus considérables de ma vie intellectuelle. » Un petit peu plus tard, en 1901, Léon Blois reviendra sur cette lecture, et il se dira déçu par le style de Rosélie de Lorgues, qui n'est pas un grand écrivain. Miracle d'un livre, dit-il, absolument médiocre par la forme, néanmoins tout puissant sur l'âme. Donc l'admiration n'a pas complètement disparu, et l'impression très forte subsiste. Et Léon Blois se sent dans la nécessité, dans le devoir de soutenir cette œuvre, par la virulence de sa propre plume. C'est ainsi que son premier ouvrage, celui qui le fera connaître après quelques articles, sera précisément un ouvrage consacré à Christophe Colomb. Auparavant, juste après la lecture du comte Rosélie de Lorgues, il a écrit quelques courts articles qu'il a publiés dans la revue du Monde catholique. Il en a publié 3, le quatrième a été refusé, chose qui est souvent arrivée par la suite à Léon Blois. Qu'à cela ne tienne, il a continué, il a rassemblé les premiers articles et il a formé à partir de là ce volume intitulé « Le révélateur du globe », avec comme sous-titre « Christophe Colomb et sa béatification future », qui est paru chez l'éditeur Sauton en 1884, avec une préface de Barbet d'Aurevilly. C'est le premier livre de Léon Blois, qui le distribue à ses amis avec diverses dédicaces, dont je cite une particulièrement intéressante. Léon Blois qualifie son livre de « Vagissement d'un enfant perdu de la Sainte Mère Église ». Le livre se compose de 3 parties, c'est d'ailleurs de ce texte-là que je tirerai la plupart des citations que je vous donnerai. Une première partie qui est un exposé historique de la cause, de la demande de béatification de Christophe Colomb. Une seconde partie qui est un portrait du serviteur de Dieu, avec de très larges extraits empruntés à Rosélie de Lorgues, que Blois glose d'une certaine manière. Et une troisième partie qui présente les obstacles à l'introduction de la cause. 6 ans après, la cause n'a toujours pas abouti. comme vous le savez, elle n'a toujours pas abouti aujourd'hui, on peut se demander si elle aboutira jamais, Blois publie une sorte de suite catastrophique à son premier ouvrage, intitulé « Christophe Colomb devant les taureaux », à l'enseigne du psaume 21, « Tauri pingues obsederunt me », pour justement défendre Christophe Colomb contre tous les ennemis qui l'accablent. La portée est là plus violemment polémique. Blois prend pour principale cible le duc de Veragouan, qui est le dernier descendant de Christophe Colomb, éleveur de taureaux de son état, ce qui justifie également le titre, et fort peu soucieux de la béatification de son ancêtre. C'est un prétexte pour Blois de se déchaîner contre toutes les lâchetés conjurées pour faire échec à la cause, tous les secteurs hostiles à l'exaltation de Christophe Colomb, tous les ennemis du sublime. La même année, le 4 octobre 90, il publie une plaquette en latin, cette fois, intitulée « Lettre encyclique à tous les évêques du monde », pour inciter précisément ces évêques à plaider la cause de la béatification de Christophe Colomb devant la Sacrée Congrégation des Rites. Il y a déjà 800 évêques qui ont signé, et il est temps que tous les autres se rallient. Bon, malheureusement, la plaquette ne sera diffusée qu'en France, Blois n'a pas d'argent, comme d'habitude, et tout ça tombera à plat, comme pour pas mal d'ouvrages de Blois. Je cite un passage de cette encyclique, je cite en français. C'est précisément à cette occasion, le 12 octobre 1892, c'est à l'occasion de cette solennité universelle que les adversaires du Christ ont résolu de confisquer à leur profit l'éblouissante renommée de l'homme, toujours avec une majuscule, extraordinaire, envoyé de Dieu pour annoncer l'évangile à la moitié de la terre. Enfin, je mentionnerai simplement pour mémoire quatre autres textes plus courts. L'un qui est assez savoureux, qui est paru en 1882, qui est donc l'un des premiers, intitulé « Christophe Colomb et la fête nationale italienne », qui est un écrit de circonstance. La ville de Pavie, se souvenant que Christophe Colomb a fréquenté son université, veut lui élever un monument. Malheureusement, ça tombe au moment de la mort de Garibaldi. Et il se trouve que la fête nationale italienne est repoussée et doit tomber exactement en même temps que la célébration de Christophe Colomb. Blois en profite évidemment pour faire un portrait contrasté des deux personnages qui ne manquent pas d'intérêt. En 1884, c'est un compte-rendu d'un poème épique catalan intitulé « L'Atlantide », dont l'auteur s'appelle Verbaguer, que Blois présente dans le magazine appelé « Le Chat Noir ». Et il défend ce poème très ardemment. Il s'agit de l'histoire de cette fameuse Atlantide, en fait du mythe de l'Atlantide, continent perdu, qui justement aurait été celui que Christophe Colomb a retrouvé, une sorte d'histoire de transposition de l'histoire du péché originel, si vous voulez, dans une immense épopée à laquelle est lié Christophe Colomb. En 1892, autre article, intitulé « Le fourmillement de l'abîme », qui est la réponse à un article malveillant, intitulé « Saint Christophe Colomb », paru dans l'Écho de Paris et dirigé contre Blois. Enfin, en 1903, une page intitulée « Jésus-Christ aux colonies », qui plus tard sera insérée dans le livre intitulé « Le sang du pauvre » en 1909, qui est une attaque extrêmement vigoureuse de la conduite des Espagnols en Amérique. Donc, je citerai essentiellement des textes pris dans « Le révélateur du globe », qui est le texte incontestablement le plus important, et ponctuellement une phrase prise ici ou là. Alors, à quel genre de travail Léon Blois se livre-t-il sur Christophe Colomb ? Ce n'est absolument pas un travail d'historien au sens strict. Blois n'est pas allé voir les sources premières, il se contente de lire Rosalie de Lorgue, il le recopie très volontiers, en mettant ou en ne mettant pas de guillemets. Je qualifierais plutôt ce travail de rêveur lucide et convaincu, mû par l'admiration inconditionnelle pour une destinée héroïque, pour une vocation unique, qui est celle de l'unificateur des deux mondes, l'ancien et le nouveau, mais aussi, et ça c'est important du point de vue de Blois, l'unificateur des deux pans du temps. Christophe Colomb inaugure la modernité, il découvre le nouveau monde, mais il clôt aussi magnifiquement le Moyen-Âge. Il y a cette belle phrase qui le caractérise, je cite, « Christophe Colomb résume en lui toutes les pensées et toute la ferveur militante du Moyen-Âge qui finit historiquement à lui. » et dont la majestueuse porte de bronze se referme sur son cercueil. Rêveur lucide, donc, qui est aussi une vision suraiguë et douloureuse du malheur des temps. L'océan de ténèbres traversé par Christophe Colomb n'est pas forcément celui qu'on pense, et Blois lui oppose, et en rapproche en tout cas, ce qu'il appelle, je cite, « le cloaque ténébreux de l'indifférence contemporaine ». Blois se s'est entouré d'hommes de mauvaise volonté et il ne leur épargne pas ses charges. Et c'est là sans doute que réside le plus grand intérêt de ses livres. En fait, cette extraordinaire invention langagière, ce génie de l'invective, qui rejoint en même temps une louange extrêmement sincère et profonde. Je vous en donne quelques exemples, il y en aura d'autres. Voici comment il, dans un style drôlatique, une sorte de pastiche de style sentencieux, voilà comment il caractérise la réaction des libres penseurs lorsqu'a été lancée l'idée de la béatification. Je cite « Les sépulcres, dès le premier jour, s'en sont indignés dans leur collège, et les larves accroupies sur la chair de pestilence ont promulgué leur déplaisir. » Vous avez toutes sortes de pages de ce genre. Ailleurs, ils partent en guerre contre, je cite, « le vertueux troupeau des onagres apocalyptiques de la libre pensée et de la libre histoire » ou encore « l'infâme cohue des saltimbanques oraculaires de l'antichristianisme ». Et enfin, ils se lamentent de vivre sur, je cite, « cette planète maudite qui n'a de fécondité que pour engendrer des monstres et qui garde toute sa force pour la germination des épines humaines autour de la tête de son dieu ». Donc, ce que je voudrais vous présenter, c'est à la fois un grand pamphlétaire et un remarquable écrivain. Je verrai d'abord comment nous passons avec Blois de la figure historique à la configuration mystique de Christophe Colomb. Je m'expliquerai sur l'usage de ce mot de configuration. Ensuite, nous essaierons de voir la configuration poétique du personnage à travers un certain nombre d'effets de style. Et enfin, ce que j'ai appelé la configuration intérieure, la méditation de Christophe Colomb comme exercice spirituel. Alors tout d'abord, de la figure historique à la configuration mystique. Toujours à propos de la cérémonie de Pavie que j'évoquais tout à l'heure, donc fixée au 18 juin 1882, Blois parle, je cite, de « retour de la conscience humaine prodigue, après une longue conspiration de l'usurpation et du silence ». Alors nous allons d'abord voir qui sont ses ennemis et contre qui il lance la polémique. Je cite « Si l'on ne savait pas qu'il est dans la nature de l'esprit humain de reproduire obstinément les mêmes platitudes et les mêmes préjugés, il y aurait lieu de s'étonner de la persistance vraiment exceptionnelle des idées espagnoles ou protestantes sur Christophe Colomb. » La simulation ne manque pas d'un certain piquant. Je vais commencer par ce qui est le plus évident, au risque de prendre l'ordre chronologique à rebours. Donc la polémique contre les protestants. Avec, je cite, Washington Irving en tête, les protestants qui voulurent bien admirer Christophe Colomb, mais à la condition expresse qu'il n'y eut pas en lui un atome de sainteté. Référence à l'ouvrage donc de Washington Irving, Histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb, paru en 1827. Blois fait également un sort à ses antécédents du XVIIIe siècle, ainsi qu'à ses successeurs, et notamment à Henry Harris, un auteur américain qui figure dans toutes les bibliographies de Christophe Colomb, et dont Blois déclare que, je cite, « c'est un homme parfaitement sûr que Dieu n'existe pas ». Contre cette vision de Christophe Colomb, lui-même va donner comme dédicace à son Christophe Colomb devant les taureaux, donc l'ouvrage de 1890, ses mots. L'ouvrage est dédié à sa femme. Je rappelle que Blois a épousé une Danoise qui s'est convertie, qui a juré le protestantisme, justement au moment où elle l'a épousé. Donc voilà quelle est la dédicace de Christophe Colomb devant les taureaux. « À ma très chère femme Jeanne Molbech, je dédie cette œuvre de justice et d'indignation » en souvenir du 19 mars 1890, date de son abjuration. Alors, que veut dire cette prise de parti contre la position protestante ? D'après Blois, la tradition protestante gomme systématiquement tous les signes symboliques de l'histoire de Christophe Colomb. C'est un affadissement systématique, un exemple, l'exemple de cette croix que Christophe Colomb plantait partout où il arrivait, à chaque fois qu'il découvrait une terre nouvelle. Les protestants l'interprète comme un signe de possession, alors que bien sûr Blois l'interprétera comme le signe de l'annonce du salut aux terres à évangéliser. L'histoire de Christophe Colomb vue par les protestants est une histoire fondée sur l'idée de hasard. Je cite le texte important. « Assurément, cet amplificateur de la création n'est d'aucune façon le fils du hasard, comme voudraient le faire croire les misérables enfants trouvés de la libre pensée, qui ont imaginé de supprimer la Providence pour écarter les inconvénients divins de la réversibilité. Contre le hasard, Blois va poser, bien sûr, une éthique et une esthétique de la vocation. La critique protestante met en exergue la moderne et humaine beauté de Christophe Colomb. Blois y opposera la beauté divine de son entreprise. Le cheval de bataille de la critique protestante, c'est de faire de Christophe Colomb finalement un homme ordinaire, ce qui va parfaitement, évidemment, avec la théorie du hasard. Je cite, il s'agissait donc d'établir, par toutes les calomnies et tous les sophismes imaginables, que le découvreur du Nouveau Monde était simplement un aventurier supérieur, une espèce de casse-cou de l'océan, quelque chose comme un Polonais de l'Atlantique, missionnaire de sacs et de cordes, dont la témérité fut heureuse et dont les ossements doivent à coup sûr tressaillir de joie pour l'extrême honneur qu'on lui fait de l'estimer à l'égal d'un précurseur de notre progrès ravissant. Alors, à côté de cette présentation anecdotique et ordinaire de Christophe Colomb, Léon Bois, au contraire, insistera sur la voie très exceptionnelle qu'il a suivie. Contre les idolâtres du subjectif, c'est encore une citation, il va poser le sens théologique le plus transcendant et le plus réel. Donc voilà pour la première cible, les protestants et tout ce qui les suit, la libre pensée et la franc-maçonnerie. Venons-en maintenant à l'Espagne. L'on n'est pas plus tendre vis-à-vis des Espagnols que vis-à-vis des protestants. Il est même peut-être encore plus méchant, et on verra que plus il se rapprochera de ceux qui auraient dû défendre Christophe Colomb, plus il sera féroce et méchant. Donc, à propos de l'Espagne, la noble victime ayant succombé, les ignobles chiens du pillage et de l'aventure se précipitèrent à la curée. En sens inverse de la croisade sainte rêvée par Christophe Colomb, l'Espagne entière s'arracha de son propre sol et se jeta sur le Nouveau Monde, comme en une croisade satanique, capable de venger l'enfer de toutes les autres croisades des siècles passés. Une cupidité monstrueuse remplaça l'enthousiasme religieux des temps chevaleresques. Ailleurs, je cite toujours, « Voilà tout à l'heure 400 ans que ce cadavre gigantesque est étendu sur l'horrible dalle glacée de la morgue, pris évidemment dans les deux sens du mot, de Castille. » Dernière citation, mais il y en aurait quasiment à toutes les pages, de cette virulence de Colomb contre les Espagnols, c'est toujours dans le Révélateur du Globe. L'Espagne est très persuadée que Christophe Colomb lui appartient. Dès lors, elle est seule juge de la pincée de gloire qu'elle consente à lui départir, et elle s'arrange pour draper sa vieille injustice dans le manteau administratif d'une rhétorique de reconnaissance. Donc, procès des rois catholiques. Surtout Ferdinand au départ, mais Isabelle n'y échappe pas non plus à la fin. Le texte le plus féroce, étant un texte trop long pour que je puisse vous le lire aujourd'hui, le texte intitulé « Jésus-Christ aux colonies » que j'ai mentionné tout à l'heure. Enfin, dernière cible, et ce n'est pas la moindre, c'est l'Église elle-même. Pour introduire ce procès, qui peut paraître un peu paradoxal, Bois va utiliser une figure à laquelle il recourt souvent, la figure de rétorsion a fortiori, le protestantisme va lui servir de faire valoir à la position scandaleuse de l'Église. Blois connaissait le poème de Schiller sur Christophe Colomb, et voici ce qu'il dit. « Si l'auteur de Guillaume Tell, qui croyait faiblement en Dieu et plus faiblement encore en ses saints, a pu entrevoir dans le crépuscule boréal de son imagination de poète dramatique le caractère unique de Christophe Colomb et son rôle spécial de mandataire divin, comment les catholiques pourraient-ils s'excuser de le méconnaître et de le dédaigner ? » L'Église, donc, est largement coupable, et ceci à travers les siècles. Elle est d'abord coupable à travers l'Université de Salamanque, le docteur de Salamanque, qui ont condamné l'entreprise avant même qu'elle ne fût faite. Je cite, « La science catholique, figée dans les formules et les sentences de l'école, avait fini par stériliser la tradition en la détournant de la contemplation des divins objets, pour la contraindre à tout expliquer dans l'ordre politique et dans l'ordre subjectif des réalités naturelles. » Donc, opposition de la science figée et de la tradition vivante, qui est une position tout à fait intéressante, et accusation à l'Église de se préoccuper beaucoup plus des réalités naturelles que des réalités surnaturelles. Alors, nous sautons à l'époque contemporaine de Blois, qui va entrer en guerre contre un certain abbé Sanguinetti, dont il fait un portrait extrêmement savoureux. Cet abbé Sanguinetti est un génois, auteur d'un livre sur Christophe Colomb très inspiré de Washington Irving, et qui s'est mis en tête de faire obstacle par tous les moyens à la cause. Alors, Blois ne le lâche pas, en gros, pendant 100 pages, et lui fait subir un sort extrêmement amusant. Alors voilà la présentation du personnage. Sur ces entrefaites, donc, une fois que la cause a été lancée, le plus imprévu de tous les obstacles surgit tout à coup. Un chanoine génois, inconnu des hommes, l'abbé Angelo Sanguinetti, helléniste peu vérifié et numismate vaticinant, était depuis quelques années dans sa ville en possession de la gloire d'historien de Christophe Colomb. Son petit livre, assez platement venimeux, espèce de castration bibliographique du volumineux ouvrage protestant de Washington Irving, donnait à ses candides concitoyens une telle idée de ce plagiaire qu'on pouvait être tenté de supposer que la parole du divin maître sur les prophètes autochtones avait été pour la première fois démentie. Il paraît que le discernement littéraire de la Carthage ligurienne allait jusque-là. Autre passage amusant qui relève cette fois de la comédie, ça vous fait en même temps voir la diversité du talent de Léon Blois. Voilà qu'arrive à Gênes, au moment du carême de 1879, un orateur chrétien de grande réputation, Mgr Millior, qui trouve tout à fait normal d'axer sa prédication de carême sur le personnage de Christophe Colomb. Alors, affolement, bien sûr, du côté de Sanguinetti, je cite, « L'effet fut inouï. L'intrusion soudaine d'un mulot dans une fourmilière peut en donner quelque idée. Le clergé s'inquiète et s'agite. Les chanoines académiciens, inexprimablement affolés, vont et viennent comme des augures épouvantés par quelque calamiteux présage. L'indomptable Sanguinetti rugit dans l'archevêché. Une députation de ses partisans vient railler l'orateur et s'emporte jusqu'à le menacer. L'archevêque lui-même, légèrement éperdu, le supplie de renoncer à un aussi funeste dessein. Tout le monde a la fièvre, tout le monde a le délire, les inquiétudes et les épouvantes planent sur la cité. » Autre cible, la fameuse sacrée congrégation, qui se méfie parce que la cause est exceptionnelle et qui est également assez réticente parce que cette cause va lui coûter très cher. Et Blois, là encore, ne ménage pas ce nouvel adversaire. Enfin, il va jusqu'au sommet, puisqu'il ira jusqu'à s'attaquer au pape lui-même, non pas bien sûr le pape de la cause, non pas Pie IX, mais Léon XIII, à qui il reproche une certaine lenteur et un certain désintérêt. Je cite, « Ah, si Léon XIII avait voulu parler avant ce jour, si comme l'espéraient tant de chrétiens suppliants, Christophe Colomb avait été déclaré saint et recommandé à la dévotion des peuples, les horribles croque-morts se fussent écartés de lui, et les imbéciles n'eussent plus osé profaner de leur bavardage un navigateur devenu compagnon des trônes et commensal des dominations. Mais l'étude de l'économie politique et la culture des protocoles ne permettent pas toujours à l'étrange successeur de Pierre de donner audience aux clameurs venues des lieux très profonds. » Donc, ce que l'on peut tirer de tout cela, c'est qu'évidemment, Blois se retrouve absolument tout seul, après avoir écarté de lui tous les gens qui auraient pu éventuellement le soutenir, et que, avec vaillance, il va garder cette position de solitaire au milieu d'une église de Timorée, particulièrement Timorée dans ses dirigeants, et qu'il ne cesse de fustiger, justement, pour sa mondanité et ses compromissions. Je cite, « Un certain groupe que je me contenterai d'appeler les catholiques du strict nécessaire, c'est-à-dire les catholiques qui tiennent pour la lettre des lois de l'Église et qui admettent d'élégantes atténuations à l'esprit des commandements de Dieu. Pour ces catholiques, sagement ennemis de l'exagération dans la pratique de leurs vertus, les saints sont toujours des hommes ridicules qui en font trop. L'estoté perfecti du sermon sur la montagne est un précepte qui ne regarde pas les mondains, et M. le comte de Pontmartin, qui avait attaqué Blois, contempteur de tout héroïsme, est l'Apollon du belvédère du bon sens chrétien. » Voilà donc pour l'usurpation et le silence. La foule ne sait de lui que son nom très mystérieux et rien de plus, sinon qu'il a fait la terre une fois plus grande et que les hommes l'ont assassiné de chagrin dans l'obscurité. Solitude donc de Blois qui s'inscrit contre tous les puissants, sans exception, tous les mondains, le bon sens, et qui se fait tout seul le chantre de l'exception et de l'héroïsme. Alors ceci implique bien sûr une réflexion sur le sens que Blois donne au mot d'histoire, et qui n'est pas le sens commun, justement, du terme. Alors il s'élève contre l'injuste histoire, je cite, « L'injuste histoire, si maternelle à tant d'avortons fameux, et qui ne résiste ordinairement aux humbles que pour conforter les superbes et les dégoûtants. » Avec majuscule à humble, superbe et dégoûtant. Cette histoire, qui est celle de la fascination de la bagatelle, c'est une citation de l'Écriture, hein, Sagesse 4.12, c'est précisément ce que Blois ne va pas faire. Alors je vous donne un certain nombre, je vous cite d'abord un beau refus de cette conception de l'histoire. Qu'est-ce après tout que l'histoire, si elle ne nous offre que le stérile tableau des agitations extérieures de l'humanité, sans éclairer les profonds abîmes de conscience privée ou de conscience publique, béants au-dessus de chaque fait, et remplie de ces témoignages dévorants qui doivent s'en échapper au jour définitif de la congrégation des peuples dans la vallée de Josaphat. Qu'est-ce que cette aride nomenclature d'événements et d'hommes qui galopent en si grand mystère sur le front des siècles comme de blêmes cavalcades apocalyptiques? Qu'est-ce encore que ces incohérentes compilations ethnographiques que n'illumine aucune métaphysique transcendante et qui se désassemblent comme des collines, comme des colliers de verroterie à la première singularité de nature humaine qui vient à en rompre le fil? Un pareil enseignement historique, réduit à ses proportions d'éphémérides et de synopses chronologiques, est assurément la plus vaine des spéculations, la plus creuse et la plus caverneusement démeublée des inutilités de la pensée. C'est une procession de monstres futiles et de sauts fantômes dans le kaléidoscope tournoyant d'une imagination de femme ennuyée. Le froid XIXe siècle s'en contente, néanmoins, et n'exige pas qu'on ait du cœur quand on lui parle de ses ancêtres. Mais sa frivolité veut qu'on l'amuse des aventures du genre humain, et cela s'appelle dans l'écriture de ce nom spécialement réprobateur, l'ensorcellement de la bagatelle. Alors, Blois va définir maintenant de son côté ce qu'il appelle le domaine sacré de l'histoire, et qui n'est donc pas ce que je viens de lire. Alors, s'inspirant de Joseph de Maistre, essentiellement également de Donoso Cortés, il va définir l'histoire, je cite, « ce grandiose plan divin qui s'appelle l'histoire ». Ou encore, « la transcendante information du symbolisme providentiel ». Il y a évidemment un jeu là sur le mot « information », le sens courant de communication d'une nouvelle, mais c'est surtout le sens du verbe « informare » dans le Nouveau Testament, dans la première épître à Timothée. « Informer », c'est « servir de modèle ». Il parle encore, je cite, du désir enthousiaste de la vérité appuyé sur le pressentiment d'un plan divin. Et également de cette noble curiosité qui veut contempler dans l'histoire une grandiose épopée de la justice de Dieu et qui cherche à travers le silence des siècles la respiration des âmes et le battement des cœurs. Quel va donc être le principe de cette histoire? Eh bien, c'est essentiellement un principe d'analogie. Je cite, « ce vif sentiment des analogies historiques par lequel l'esprit humain remonte et parcourt intuitivement l'immense procession des faits importants par-dessus toutes les séries intermédiaires des agitations de l'histoire. » Donc tout se correspond. Il y a des grands hommes qui se correspondent à travers l'histoire et j'utiliserai pour qualifier Blois historien, si l'on peut dire, une formule de Jacques Vierre, je cite « le chroniqueur exhaustif des simultanéités ». La formule est belle et parfaitement adaptée au personnage. Cette conception de l'histoire repose pour Blois sur l'idée que le temps est une imposture. Je cite, le temps est donc une imposture, nous sommes toujours valeur centrale de l'immolation du calvaire. C'est là le centre et c'est à partir de là que tout s'organise comme un système d'ondes concentriques. À partir de là se pose bien évidemment le problème de la lisibilité et du public. Et ça, Blois en était parfaitement conscient. Cette histoire-là, la vraie, n'est lisible que pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Elle est scandaleusement illisible pour les incroyants. Et de ce point de vue-là, Blois a parfaitement conscience de parler dans le désert. Il ne s'adresse qu'aux intelligences profondes et aux cœurs mystiques, qui sont peu nombreux, comme chacun sait, et il n'est pas prêt à faire le moindre effort de démagogie. Je cite, « je n'écris pas pour le public, grand ou petit. » Mes livres sont faits pour quelques-uns qui sont des chefs selon Dieu et qui peuvent conduire le bétail. Mon style seul, ma forme littéraire est une ligne de démarcation qui ne dépassera jamais aucune foule. Je vise à la tête pour être bien sûr de ne jamais atteindre plus bas que le cœur. Voilà la formule de Captatio Malevolentiae et le lecteur en fait ce qu'il voudra. Alors maintenant, comment présente-t-il son personnage? Donc, configuration historico-mystique de Christophe Colomb. Christophe Colomb est tout sauf un aventurier de génie. Il est essentiellement une âme, unique parmi les uniques, avec référence à la belle expression « unica mea » du psaume. Christophe Colomb est avant tout l'homme d'une vocation au sens propre, au sens strict du terme. C'est un homme qui a entendu un appel. Cette vocation lui inspire trois grands rêves, inséparables les uns des autres. L'évangélisation des Indiens, l'affranchissement temporel de la papauté et la conquête du Saint-Sépulcre à laquelle doit servir l'or du Nouveau Monde. Vocation donc au sens fort. Christophe Colomb a entendu un appel intérieur qui devient, je cite, « la vocation et la mission religieuse des temps modernes ». Cette idée de la vocation, elle est tout à fait présente chez Rosalie Delors, que Blois ne l'invente pas du tout, mais il la reprend et il la commente. Je cite, il parle du pressentiment humainement inexplicable de sa mission qui grandissait alors silencieusement en lui. Ailleurs, il parle du don mystérieux reçu d'en haut pour l'accomplissement de son œuvre. Le succès était providentiellement attaché à sa personne et lui seul, en majuscule, pouvait découvrir le nouveau monde. Voilà, c'est intéressant parce que dans un autre texte, il rattache cette idée de l'exception absolue de Christophe Colomb à des raisons théologiques, à une réflexion sur ce qu'est la personne, sur ce qu'est l'unicité d'une âme humaine. Je cite, « Donc rien ne suffisait humainement pour la découverte. Il fallait la personne de celui qui portait, inscrite jusque dans son nom, on y reviendra tout à l'heure, cette vocation miraculeuse. » Je sais que cela est tout à fait incompréhensible et par conséquent tout à fait absurde pour la plupart des hommes de ce temps d'égalité. Donc, Blois, lui, sait le prix d'une âme, hein, une âme unique parmi les uniques, et il sait bien que dans l'histoire de Christophe Colomb, tout est affaire d'âme et de rien d'autre. D'où cette idée d'une configuration, d'une destinée extraordinaire, qui se lie symboliquement à travers la contemplation d'une âme d'exception. Et pour cela, Blois, toujours à la suite de Rosalie Delorgue, mais de manière plus efficace, puisqu'il commente constamment ce qu'il trouve chez Rosalie Delorgue, Blois va avoir recours au texte fondateur, à l'écriture, qui va lui fournir un réseau de consonances de Christophe Colomb. C'est toujours cette idée de la simultanéité, si vous voulez, de l'histoire. Il y avait déjà des facettes de Christophe Colomb qui étaient symboliquement présentes dans de grands personnages de l'écriture, dont Blois va nous présenter toute une galerie. Par exemple, Christophe Colomb a quelque chose de commun avec Abraham, je cite, « cet Abraham voyageur à la recherche de sa postérité inconnue ». Ailleurs, il le qualifie de Caïn de l'innocence. Un peu plus loin, c'est de Moïse qu'il le rapproche. Je cite, « la prière du serviteur de Dieu sur la montagne pendant le combat des chrétiens contre les Indiens me rappelle involontairement celle de Moïse durant le combat d'Israël contre les Amalécites ». Par ailleurs, il applique à Christophe Colomb l'épithète que le livre du Lévitique applique à Moïse, « Vir mitissimus », le plus doux des hommes, comme l'Esprit-Saint le dit de Moïse. Dans sa faiblesse et dans sa peur bien humaine, Blois rapproche Christophe Colomb d'Élie. Il fait partie de ces sublimes épouvantés dont nous avons également des exemples dans la Bible. Comme Daniel, je cite, « Christophe Colomb fut un homme de désir ». Constamment, il le rapproche de Job et de Jonas, le parallèle est suffisamment évident pour que je me passe de citation. Autre comparaison avec saint Jean-Baptiste, je cite, « Un jour, enfin, le Seigneur appela un homme, comme il avait appelé Jean, pour préparer ses voies. » Comparaison avec les mages, infatigables à la façon des mages adorateurs, conduits comme eux par une étoile, mais une étoile plus brillante que la leur, celle que l'Église a nommée l'étoile du matin. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'aspect marial de l'aventure de Christophe Colomb. Il l'assimile à saint Paul, je cite, Son accablante odyssée, presque semblable à celle de saint Paul et non moins étonnante, nous écrase tout autant le cœur. Enfin, la comparaison est explicite également entre Christophe Colomb et le Christ lui-même. Je cite, « Tout le monde sait que ce grand homme fut abandonné du misérable roi qu'il avait fait le plus puissant de la terre et qu'il mourut dans la plus obscure indigence après avoir été chargé de fer et livré aux plus vils outrages qui aient été endurés par un mortel depuis la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. » Autre citation, « Le nolumus unc regnare ne s'adresse pas seulement à notre Seigneur Jésus-Christ, mais à tous les fronts couronnés d'épines et surtout à ceux-là qui saignent le plus. » Et quel homme fut plus couronné d'épines, plus roulé dans le buisson ardent de l'apostolat que Christophe Colomb, qui donna la moitié du globe à la Sainte Église, et qui, 350 ans après sa mort, n'avait pas encore trouvé la moitié d'un écrivain catholique pour raconter cette largesse. Enfin, la citation la plus intéressante et la plus belle, puisque c'est celle-là qui me donne ce mot de configuration, je cite, « Christophe Colomb était trop grand et trop exactement configuré, entre guillemets, à Jésus souffrant, pour échapper à cette extrémité de la misère », avec référence à l'épître aux Philippiens 3:10 et 3:21, cette configuration, la configuration au Christ qui implique l'idée d'une ressemblance mystique. Enfin, et ceci conformément à la pensée apocalyptique de Blois qui ne le quitte jamais, Assimilation de Christophe Colomb au Saint-Esprit dont le retour est imminent. Blois met en épigraphe à son révélateur du globe ce verset de Saint-Luc, Luc 3, 22, à propos du baptême du Christ, « Spiritus Sanctus corporalis pecie sicut columba ». Donc l'Esprit Saint sous une forme corporelle comme une colombe. Autre texte que je vous citerai, c'est cette fois-ci dans son journal, c'est encore une vision rétrospective de l'époque tout à fait intéressante. Voilà ce que Blois écrit dans son journal en mai 1892. « Vieil Aymeric reconstitué à la porte Maillot pour préluder aux fêtes du centenaire de la découverte. Rencontrer un ami qui m'affirme qu'il n'y aura pas de profanation. Pauvre bonhomme qui ne conçoit pas la profanation par le ridicule. Ce délire de reconstitution m'exaspère. Il montre si bien le néant d'un temps qui ne peut se regarder lui-même. Ennui et dégoût à la vue de ce public de putains et de saltimbanques. Mascarade immense dans le monde entier. Le centenaire tant annoncé pourrait-il être autre chose ? Le pape, qui sait, aurait le pouvoir de changer le caractère de ces manifestations, ne fera rien, c'est trop évident. Le Christophore est trop l'image de l'Esprit Saint, et je sais combien l'Église moderne est diligente pour écarter la troisième personne divine. Enfin, la figure de Christophe Colomb est associée par Blois à ce que j'appellerais une configuration mystique de la France et de sa mission, dont Blois est tout à fait convaincu. Et il souligne à plaisir les liens entretenus entre la France et Christophe Colomb, et entre cette France, à la fois fille aînée de l'Église et première apostate. Alors d'abord, Christophe Colomb a été au service du roi René, avant d'échouer au Portugal, ce qui est un premier lien avec la France. Ensuite, c'est la fille aînée de l'Église, je cite, qui avait la première égaré l'opinion et donné le nom d'un plagiaire au continent découvert par l'envoyé de Dieu. Référence à l'ouvrage du géographe lorrain Waldseemüller qui a écrit l'histoire d'Amerigo Vespucci, qui a donné son nom au continent américain. Suite de la citation, ce fut elle-même, cette même fille aînée de l'Église, que le chef de l'Église chargea de réparer autant que possible cette injustice en publiant dans sa langue la vie de ce sublime apôtre. Rosélie de Lorgues vient donc répondre à Martin Waldseemüller trois siècles plus tard. Enfin, la découverte de l'Amérique apparaît à Blois comme un élément de la révélation, là encore par consonance. Elle est l'accomplissement d'une prophétie qui était jusqu'alors restée très mystérieuse, prophétie d'Isaïe qu'il qualifie de la plus profondément obscure des prophéties de l'Ancien Testament. C'est dans Isaïe 60, verset 9, « Me enim insule expectant »,« Les îles m'attendent », c'est le magnifique chapitre 60 d'Isaïe, dont le début sert d'épître à l'Épiphanie. Et dans ces îles mystérieuses d'Isaïe, Blois lit, bien sûr, les îles de l'Amérique découvertes par Christophe Colomb. Bon, il y a également d'autres textes de l'Écriture qu'il utilise comme prophétie, Isaïe 60, le dernier chapitre de Malachie, mais ce verset est celui qui revient le plus souvent, et c'est celui sur lequel il fait le commentaire le plus frappant. Donc, la découverte de l'Amérique est liée à l'histoire du salut, dans la mesure aussi où elle permet la célébration perpétuelle à toute heure du jour et de la nuit du sacrifice de la messe. Ainsi, le dessein de Christophe Colomb est-il configuré à l'absolu. Il est l'image, je cite, de la sainteté avec son triple caractère de prédestination, d'édification et de contradiction. Et la seule histoire qui lui soit applicable est cette histoire de l'exception, cette histoire qui se lit sub specie aeternitatis. Alors, à cette histoire quasiment indicible, quel langage va correspondre ? Pour un écrivain, évidemment, se pose le problème de savoir comment parler d'un personnage sur lequel, en gros, c'est l'opinion de Léon Blois, l'histoire au sens traditionnel du terme n'a rien dit qui vaille. Blois est donc de plus en plus conscient, enfin en tout cas il ose au fur et à mesure que le temps passe l'affirmer, de la médiocrité et de la pauvreté littéraire du livre de Rosélie de Lorgues. Il va donc s'agir en quelque sorte de pallier cet inconvénient par ce don de la formule, cette maîtrise du langage que Léon Blois est bien conscient de posséder. Je vais donc étudier un certain nombre de variations poétiques et spirituelles de Blois sur Christophe Colomb, puisque l'originalité de ce qu'il écrit est d'être à la fois des écrits polémiques extrêmement virulents et en même temps une sorte de poème, une sorte de méditation sur le personnage de Christophe Colomb. Alors d'abord, et c'est là que se signifie le poète, Toutes ces variations absolument constantes sous sa plume sur le nom de Christophe Colomb, ce nom doublement prédestiné. La divine providence n'est nullement étrangère aux noms que doivent porter les chrétiens jusqu'à leur dernière heure et sur lesquels ils seront crucifiés ou exaltés selon le caprice de l'inconstante populace humaine. Donc Blois va raisonner sur les deux noms de Christophe Colomb. D'abord Christophe. Il rattache bien sûr Christophe Colomb à la légende très ancienne de Saint-Christophe, répandue dans l'iconographie chrétienne, ce porte-Christ géant qui passe une rivière sans être complètement mouillé et qui s'appuie ensuite sur un tronc d'arbre verdoyant. Et là, Blois estime que cette légende restait très mystérieuse pendant tout le Moyen-Âge, trouve sa clé avec Christophe Colomb. Je cite, « Par une exception unique de l'iconographie sacrée, l'iconographie sacrée et les usages du culte, la piété populaire adopta là des attributs figuratifs de l'avenir. » Saint Christophe était là pour attendre Christophe Colomb, de même que la prophétie d'Isaïe l'attendait également. Maintenant, la gigantesque effigie a reçu son explication. Alors, le nom de Colomb, Columba Christum Ferens, comme Christophe Colomb se désigne à lui-même, suscite chez Léon Blois toute une immense concordance des occurrences bibliques du nom de la colombe. Et c'est là que se révèle le Blois poète et le Blois très grand écrivain, et en même temps très grand lecteur de l'écriture. Les citations de l'écriture, ou en tout cas les réminiscences de l'écriture, arrivent comme automatiquement sous sa plume et se mélangent les unes aux autres dans une très belle constellation. Alors la première référence, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure, c'est la référence à Saint-Luc, l'Esprit-Saint comparé à une colombe. Autre référence, celle au Cantique des Cantiques. Je cite... « Tes yeux sont comme les yeux des colombes, dit le bien-aimé du Cantique. Et qui donc a été plus semblable que Christophe Colomb à cette figure biblique de la méditation gémissante et inépuisablement miséricordieuse ?» Là, il y a un effet de superposition, la méditation gémissante étant une réminiscence de Romains 8, 26, « Gemitibus inenarrabilibus ». Autre référence à Isaïe. « Qui sunt isti quiut nubes volant et quasi columbe ad fenestras suas ?» qui sont ceux-ci qui volent comme des nuages et qui volent comme des colombes vers leurs fenêtres, vers leur maison. Juste avant, le verset que j'ai cité tout à l'heure à propos des îles. Commentaire de Blois, on dirait le témoin de la première expédition de Colomb. Il assimile aux blancs nuages volant dans l'azur les blanches toiles de ses caravelles sur les flots. Et par une transparente allusion à son nom, il compare ses voiles rapides à l'aile des colombes revenant vers leur nid. Donc la raison poétique et la raison exégétique se combinent, là encore, en l'honneur de Christophe Colomb. Autre variation, cette fois-ci empruntée à Jérémie. Jérémie 25, 38, Ira Columbae, la colère de la colombe. Je cite, « Il semble que le héros aurait pu relever la tête une bonne fois et parler d'une voix terrible à tous ces puissants charnels qui polluaient le saint nom de Dieu. Il n'en fit rien parce qu'il était la colombe et que la colère de la colombe annoncée par Jérémie est un ineffable mystère de justice en réserve au fond de l'avenir. » La vie du héros est donc jalonnée de ces consonances qui l'exhaustent à un destin surnaturel, prédestination, vocation entérinée par ce nom dont Dieu l'appela et dont il fait référence à lui dans la Sainte Écriture. Je vois là tout un réseau poétique qui apparente le texte à une méditation. Méditation pour l'auteur, mais méditation qui s'offre également au lecteur. Et pour peu qu'on passe un peu de temps sur ce texte de Blois, on repère ces réseaux et on se rend compte que c'est un texte qui a beaucoup plus de profondeur qu'il n'y pourrait paraître à première vue. Je cite, « Cette visitation de la terre par l'oiseau mystique n'est-elle pas une image sensible de la parole écrite visitant les hommes dans le demi-jour crépusculaire de la loi d'attente ?» Là encore, figure christique de Christophe Colomb, avec ce mot de visitation, enfin, qui fait éclater justement le sens mystique du texte. Constamment, Blois désigne Christophe Colomb par des périphrases, la colombe amoureuse, la colombe poignardée. Il est vraiment, je cite, cette colombe qui rapporte vers le soir au batelier de l'arche symbolique le verdoyant olivier de la rémission du déluge. Là encore, on a une belle superposition. La colombe de la Genèse. Saint-Christophe, qui s'appuie justement sur ce verdoyant olivier, et l'histoire de l'Europe, le retour de Christophe Colomb en Europe. On remarquera la richesse du style de Léon Blois en substantifs. C'est un style très substantif, ces substantifs latins qu'il aime beaucoup, qu'il crée quelquefois à la manière de néologisme. Léon Blois est un lecteur assidu des psaumes, et cette lecture, d'une certaine manière, pénètre par capillarité ce que lui-même écrit. Il est lui-même... Il se situe lui-même aux antipodes de ce qu'il appelle le jargon prussien, le langage de la critique historique dont il a horreur. Il a parfaitement conscience de pratiquer une écriture de l'exception. Je cite « La cause de Christophe Colomb ne ressemble elle-même à aucune autre. Elle est exceptionnelle en tout et appelle un langage exceptionnel. » D'où tout un sublime Bloyen qui s'épanouit dans l'invention de périphrases signifiantes. On peut voir là, dans une perspective rhétorique, un effort de grand style, enfin au sens où les anciens concevaient le style sublime, appliqué à un haut personnage. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que l'on a deux genres littéraires qui se superposent, le genre de la poésie encomiastique, le genre du panégyrique, d'une part, la méditation scripturaire, d'autre part, et la polémique qui n'est jamais loin derrière. Alors, je vous donne quelques exemples de ces périphrases, mais on en rencontre absolument constamment. Il y en a plusieurs par page, quelquefois, qui sont une véritable broderie sur une trame biblique, avec toujours cet usage bloyen de la majuscule magnifiante, et très souvent l'usage du démonstratif déictique qui pose le personnage. Cet ambassadeur plénipotentiaire de la Sainte Trinité. Cette incomparable ressemblance de Dieu. Cet amplificateur de la création. Le patriarche des missionnaires. Le Père selon la grâce de 200 ou 300 millions d'Indiens privés de l'Évangile. Là, une très belle série tripartite que je reprendrai tout à l'heure dans une citation plus longue. Le contemplateur du Verbe, l'inventeur du Nouveau Monde, le candide précurseur de l'oblation perpétuelle. Autre expression intéressante, parce que c'est une variation là encore sur le style de saint Paul, cette balayure de l'éternité. 1 Corinthiens 4,13, nous sommes la balayure du monde. Pour finir sur cette partie, je vous citerai quelques belles phrases de Blois, enfin tout à fait typiquement bloyennes. Le premier exemple, ce sera un exemple de style drôlatique. Il est pris dans ce texte dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait entrer en collision Garibaldi et Christophe Colomb. Oui, 5 minutes. Donc, étant donné la mort de Garibaldi, En 82, la fête nationale italienne a été repoussée et il se trouve qu'elle va coïncider avec la célébration de Christophe Colomb à Pavie. Nous autres Français, nous n'avons rien de mieux à faire que de laisser les Italiens se réjouir chez eux en attendant notre fête nationale à nous, qui tombe précisément 40 jours après la leur, comme l'ascension après Pâques, intervalle liturgique qui a l'air de symboliser notre incomparable progrès vers cet état purement divin où nous ne toucherons presque plus la terre à force de désintéressement patriotique et de spiritualisme républicain. Alors, maintenant, je passe au genre plus sérieux et je vous cite quelques... Ce sont en général des clausules, enfin, Blois a l'art de finir ses phrases d'une manière étonnante. L'invraisemblable odyssée de cette gloire exorbitante, s'abîmant dès son aurore, voyageant dans le mystère des catacombes par-dessous la rumeur d'une dizaine de générations, et surgissant tout à coup par la volonté d'un pape et malgré les efforts diaboliques d'une multitude d'imbéciles épouvantés d'un tel signe, au moment précis et providentiel où la splendeur obscurcie du catholicisme a tant besoin de ce réconfort de magnificence. J'en citerai encore deux avant de conclure. Le nimbe de Colomb ne serait plus un nimbe, ce serait un halo terrestre à la bénigne clarté duquel serait célébrée sans doute enfin sous l'orgue des ouragans la grand-messe de l'Apocalypse. Et enfin, le beau texte marial, bon, je n'aurai pas le temps de développer mon troisième point, l'exercice spirituel qui consistait à avoir une constellation entre Christophe Colomb d'une part, le pape Pie IX, le pape de la Colombe, enfin, qui l'a suscité, et Léon Blois voit évidemment là un effet de la Providence, Rosélie Delorgue lui-même suscité par Pie IX, et Blois lui-même, qui bien sûr se voit comme une figure moderne de Christophe Colomb. Son rôle est, toute proportion gardée, le rôle de Christophe Colomb, il est le solitaire, celui qui n'est reçu par personne, celui qui a évangélisé la mère ténébreuse de la modernité et qui restera dans son isolement. Bon, par ailleurs, Blois voit encore un effet de la Providence dans le fait que ce soit le pape de l'Immaculée Conception et de l'infaillibilité pontificale qui ait suscité Christophe Colomb. Il y a là une espèce d'apothéose de l'Église qui, évidemment, ne le laisse pas indifférent. Donc, je finirai sur une très belle citation. Qui est une... Comme vous pourrez le voir, c'est là qu'on sent véritablement que ce texte qui commence comme un texte polémique, en fait, devient petit à petit une méditation religieuse. Je cite. « La Vierge sans tache le conduit presque visiblement de sa main lumineuse à travers tous les écueils de l'océan et du monde. Dans les nuits sereines de l'Atlantique, sous la bénigne clarté des constellations australes, l'azur profond de ce firmament nouveau pouvait paraître aux contemplateurs du Verbe comme le manteau étoilé de la reine des cieux, étendu pour le protéger sur l'immensité des flots. Et dans les angoisses de la tribulation suprême, c'est elle encore qui descendait pour fortifier son serviteur, non plus dans le bleu constellé de sa gloire, mais dans le sombre vêtement de la mère douloureuse, avec le cadavre d'un dieu sur ses genoux et les sept épées plantées dans le cœur. Mais c'est elle toujours, dans le calme ou dans la tempête, et dans la plus belle grandeur, après tout, de l'inventeur du nouveau monde, du candide précurseur de l'oblation perpétuelle, la plus belle grandeur, donc, de l'inventeur du nouveau monde, c'est d'avoir accompli dans sa plénitude, après 1459 ans révolus, la troisième parole de notre Seigneur Jésus-Christ mourant sur la croix, sous les yeux de sa mère, pour le salut du monde entier. Je vous remercie.
Ma chère collègue, j'emploierai pour vous remercier et vous féliciter quelques-unes de vos expressions, si vous permettez. Votre communication n'a pas été nullement loin de là le vagissement d'un enfant perdu. Mais en réalité, vous nous avez présenté une véritable lettre encyclique à tous les intellectuels du monde à propos de Léon Blois, rêveur lucide et convaincu. Vous nous avez montré non seulement la pensée de Léon Blois, ça nous l'attendions bien sûr, mais aussi la multiplicité des opinions émises dans ce froid 19e siècle à propos de Christophe Colomb. Bravo, toutes nos félicitations, ma chère collègue. Y a-t-il une ou deux demandes d'interrogation? Nous sommes tout de même assez pressés par le temps. Madame.
Je pense que vous avez fait une allusion à la Vierge Marie et qui était,
qui
servait d'emblème à la caravelle.
Oui, bien sûr. L'emblème marial était partout, en fait. Christophe Colomb avait une grande dévotion à la Vierge Marie. Enfin, on sait qu'il faisait chanter l'Ave Marie Stella à chaque découverte. Et justement, Blois a vu là une sorte de lui qui avait, Blois qui avait lui aussi cette très grande dévotion. Enfin, Blois, le grand écrivain de la Salette, il a défendu encore une cause perdue avec la Salette, devant finalement le même public et les mêmes adversaires. Et cette cause de la Vierge Marie lui tenait tout à fait à cœur, sans aucun doute. Et il était très heureux de la retrouver dans le personnage de Christophe Colomb.
D'une communication à l'autre, nous retrouvons l'idée de l'Immaculée Conception que vous nous avez signalée tout à l'heure. J'ai l'impression que les Espagnols étaient beaucoup plus favorables à l'Immaculée Conception que ne l'étaient les intellectuels français. Vous savez qu'il y a eu des bagarres considérables à propos de l'Immaculée Conception au XIVe et au XVe siècle, et il a fallu tout de même attendre quelques siècles, et Léon Blois, pour que l'Immaculée Conception soit proclamée. Autre question, M. Brancourt.
Ce rêveur de Blois, finalement, touchait historiquement juste, parce que la première réflexion de Colomb, lorsqu'il est né à nez avec des Indiens couverts de plumes, il aurait pu dire « tiens, des bons sauvages », ou pas des choses du genre 18e, mais pas du tout. Ce qui l'intéresse tout de suite, et il l'écrit à des Indiens, c'est leur aptitude ou non à se convertir. Et il écrit tout de suite qu'ils devraient se convertir parce qu'ils ne font partie d'aucune secte.
Oui, tout à fait.
Et là, les intuitions de Blois sont parfaitement lucides, finalement, et Blois se révèle inconsciemment un excellent historien, mieux justement que les intellectuels raisonneurs.
Un historien d'intuition, certainement, ça sans doute.
Oui, mais ça compte.
Oui, je suis tout à fait d'accord, monsieur.
Cher monsieur, pardon. Là-bas.
Non seulement Léon Blois est le défenseur des causes perdues, et avant même qu'il ait dit même combat, il sait qu'il défend des gens indépendables au moins au lieu de la plupart, c'est qu'il commence sa carrière par Christophe Colomb, il termine par, il la continue par le fils de Louis XVI, dans lequel il prétend voir Marie-Thorpe, et il continue, non pas par la sagesse qu'il termine par tous les chrétiens, mais par la défense de la cause de Mélanie Galba, considérée comme la plus grande sainte de tous les temps, la voyance de la sagesse, et ce qui est de son temps, et ensuite beaucoup plus discuté. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Est-ce que des personnages auxquels il peut s'identifier,
bien sûr,
des personnages qui sont lui-même et qui sont lui-même dans sa lutte d'Alès contre une époque qui donne lieu, une époque qui n'est qu'une vaste conspiration contre Dieu, comme il l'a dit, la page peut-être la plus belle du révélateur de l'homme, c'est celle qui décrit Christophe Colomb rejeté, Christophe Colomb enchaîné, Christophe Colomb en prison, ayant tout perdu, galopier, et finalement pleurant dans son cachot, ce cachot dans lequel il doit à une impression de sa vie, de même qu'il s'identifie au roi perdu, Bernard, et de même qu'il s'identifie à Mélanie Galba, la plus grande sainte de tous les temps, des martyrs du héritage de son corps.
Oui, je remercie M. Arveillé, qui est le grand spécialiste de Léon Blois, je le remercie d'être ici. Mais bien sûr, c'est à Mélanie Galba que je pensais tout à l'heure, et cette identification de Blois au personnage qu'il choisit, c'est une évidence, c'était ce que je voulais développer dans ma troisième partie, mais j'étais trop bavarde dans les deux premières, donc vous l'avez dit pour moi et vous l'avez résumé à ma place. Merci beaucoup.
Je vais vous demander, madame, si Léon...
Mettez le micro, s'il vous plaît.
Je voulais demander, madame, si on doit dire directement ou indirectement les auteurs espagnols, parce que quand il écrit en 1882 du côté de l'Espagne, je pense à Ganivet en particulier et quelques autres, la légende noire continue, on verra cet après-midi, et les Espagnols aussi sont très critiques, non seulement sur Colomb, mais surtout sur les conséquences de la conquête. Il faudra comme 1898, de force des Yankees, alors pour qu'il y ait un changement.
Je ne pense pas, alors là M. Arveillet répondra peut-être mieux que moi, mais je ne pense pas que Blois ait accès aux sources historiques directes, enfin, en particulier pas aux sources espagnoles.
Dans Christophe Colomb contre les taureaux, il entre en guerre contre l'Académie royale d'histoire de Madrid, qui a refusé de donner le prix offert par le duc de l'Hérandage, descendant de Christophe Colomb, au meilleur historien Christophe Colomb, qui a refusé de donner à un historien écrit et qui l'a donné à un historien de Chili américain et à
Paris.
Et donc, il y a là une violente mise en question de toute l'historiographie espagnole.
Il s'intéresse plus au texte d'allure mythique, enfin, qui lui va plus directement au cœur, cette Atlantide de Verdaguer, alors qu'il est un bon catalan. Mais là, il l'a lu et il en parle de façon pertinente. Enfin.
Il a très bien connu Verdaguer.
Oui, mais il n'a pas, je dirais qu'il n'a pas le réflexe de l'historien, c'est-à-dire qu'avant d'écrire quelque chose, il n'a pas le réflexe de faire la lecture exhaustive des sources, il n'a pas du tout. Il n'hésite pas à travailler sur des sources de seconde main.
Eh bien, s'il n'y a plus d'observations ou de demandes de renseignements, il me faut clore la séance en remerciant ceux qui ont bien voulu parler, en vous remerciant tout spécialement, madame, monsieur Le Flemme, et en félicitant l'auditoire qui a été particulièrement sympathique et souriant. Bon appétit.